Bonjour, bienvenue sur Radio Z.
Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, une émission spéciale chronique, où personne n'a préparé de chronique. Donc une émission à l'image de cette introduction que je viens de vous non préparer. Heureusement que nous avons notre sauveuse du jour, en la personne de Marie-Thérèse, qui nous a prévu une chronique mystère. Et c'est déjà très gentil de sa part, parce que nous n'avons rien fait.
C'est de bon cœur, c'est de bon cœur.
C'est de bon cœur. Donc, écoutez, on vous écoute, Marie-Thérèse, et puis voilà. On va en parler après.
Voilà, je pense que c'est une chronique qui va intéresser tout le monde et qui ouvre bien des débats actuellement. C'est le changement d'heure.
Qui est le numéro 1 ?
Radio Z.
Attention. Vous entrez dans la
Radio Z
dimension.
Alors, c'est sur une idée de Benjamin Franklin en 1784 qui a évoqué pour la première fois la possibilité de décaler les horaires afin d'économiser de l'énergie. Mais à cette époque-là, la société est encore très largement agricole et où l'heure utile, entre guillemets, est celle du soleil, qui varie quand même de 50 minutes de l'est à l'ouest de la France.
Soit, alors, soit 100 minutes, soit une heure et demie.
Non, 50
minutes.
50 minutes,
ça minutes. Fait pas une
heure. Avant et 50 minutes après.
Non, juste 50
non,
minutes.
Non, non,
alors, alors, l'heure d'hiver. La France vit encore sur le fuseau horaire de l'occupation. À l'arrivée des nazis en 1940, la France a avancé sa montre d'une heure pour s'aligner avec l'Allemagne. Cette décision n'a jamais été annulée. Pourtant, si l'on voulait vraiment vivre calé sur le soleil, on retarderait son horloge, non pas d'une heure, mais de deux heures. Parce que cela fait 73 ans que nous vivons en décalage avec le soleil à cause des Allemands et, je dirais, de la SNCF. Parce que pour des questions pratiques, ils étaient bien contents que l'heure change. Mais il faut savoir que la France étant occupée de par moitié, la zone non occupée était à l'heure normale. Donc les trains qui traversaient la France, ils arrivaient forcément toujours en retard. C'est oui. Du nord au sud, ils arrivaient toujours en retard.
Ça vient de là, en fait. Tout vient de là.
Voilà, parce qu'il faut savoir qu'avant l'occupation, la France et l'Angleterre étaient à la même heure. C'est, je crois que c'est l'heure de Greenwich, là, plus ou moins un. Mais tout le monde était à peu près pareil. L'Allemagne nazie occupe la France en 1940 et déclare l'heure d'été GMT plus une, mais que sur une moitié de la France. Alors, entre mars et octobre depuis 1923, le reste de l'année, c'est l'heure GMT. On ne change pas hiver ou été, c'était juste une heure. Alors, sauf qu'à Berlin, il est une heure plus tard et que les Allemands ne voulant pas changer leurs habitudes, ils changent l'heure parce que ça les arrange. On passe à l'heure allemande. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un feuilleton tiré d'un bouquin où, je ne me souviens plus de l'auteur, où c'était mon village français à l'heure allemande. Et c'est tiré de ça.
D'accord.
Voilà.
Je ne connaissais
alors,
pas.
Comme je vous disais, ça
faisait. Il n'y a que toi, Agnès, qui pouvait.
C'était le bazar.
Ouais, pourquoi ?
Le bazar entre les zones occupées et non occupées. Puis c'est en 1976, suite à la première crise pétrolière, que le président Valéry Giscard d'Estaing rétablit l'heure d'été, c'est-à-dire forcément GMT plus 2, puisqu'on en avait déjà une qu'on traînait, pour des raisons d'économie d'énergie. Alors, le passage à l'heure d'été est-il justifié ? Le changement d'heure, s'il est habituel pour nous, ne l'est pas dans la plupart des pays du monde. Destiné à économiser de l'énergie, il est majoritairement impopulaire parmi les Français. C'est vrai, je me souviens d'un fermier qui disait « Bah oui, moi, la vache, il faut que je la traie, je ne vais pas lui dire « Attends une heure » ou « À nourrir les bêtes ». Enfin, tout comme on dit à cette heure utile, qui est pour les agriculteurs l'heure du soleil, il y a des choses qu'on ne pouvait pas changer. Et... Par contre, des fois, je pense au coq qui fait cocorico n'importe quoi. Je ne sais pas s'il doit être complètement déboussolé parce que des fois, à 5 heures de l'après-midi, on les entend. Alors, ça a un impact aussi notamment sur les bébés et les personnes âgées à cause de l'ensoleillement. Voilà. Alors, ça, ce sont des impacts plutôt négatifs. 54% des Français sont opposés. Ce dernier constat est régulièrement appuyé par des études sur l'impact du changement d'heure. La dernière en date, publiée en septembre 2015, c'est récent, a été réalisée par la Commission européenne qui écrit que la santé peut être affectée par le changement de biorythme du corps avec de possibles troubles du sommeil et de l'humeur. En 2008, une étude suédoise, publiée dans le New England Journal of Medicine, s'appuyant sur les statistiques du pays entre 1987 et 2006, constatait une augmentation statistiquement significative du risque de crise cardiaque, quand même, dans la semaine suivant le changement d'heure. Ça bouscule les biorhythmes. Oui, donc tout cela est quand même très troublant. Mais les résultats sont souvent contradictoires. Certains résultats suggèrent que le changement améliore la sécurité routière parce qu'on a plus tard une meilleure visibilité. Par contre, d'autres disent que c'est le contraire parce qu'on a des troubles du sommeil, donc on peut aussi faire des accidents. Alors, c'est en Russie qu'on a mis fin au changement d'heure en 2011 parce qu'il y avait plus d'accidents de la route. Et forcément, c'est des pays de l'Est où il fait rapidement noir et où là, c'était vraiment un impact très fort.
Et alors, bon, cette fin de...
Attends, je crois que ça va t'intéresser. Alors, pourquoi change-t-on d'heure? Ce changement est conçu pour économiser de l'énergie en profitant des périodes de jours plus longues l'été et en se rapprochant du rythme du soleil l'hiver. Une étude publiée en 2010 a montré que le passage à l'heure d'été entraînait une consommation d'électricité plus importante le matin, surtout à 6 heures du matin, soit 5 heures d'hiver. Une consommation beaucoup moins importante le soir, surtout entre 20h et 21h, soit 19 et 20 heures d'hiver. Autrement dit, les foyers payent en moyenne un peu plus en électricité le matin, mais économisent finalement le soir. Et tout ça, ça revient à... ça économise 10 centimes d'euros.
Par jour? C'est déjà ça.
Ouais, mais bon...
Tu gagnes 1,20€ par année.
Au total, il y a environ 70 pays qui changent d'heure au moins deux fois par an.
C'est un coca.
Alors, une petite question. Au mois de mars, on va avancer ou on va retarder?
Je ne sais pas.
On va faire avancer. Plus une heure.
On avance. Ouais.
Mais ça va être coupé.
On va se réunir plus tôt.
C'est fini, c'est ça? C'est la dernière année où...
Il est question que la France arrête ce changement. Mais comme de toute façon, il y a toujours un problème...
Il y a des enjeux qui nous dépassent et donc il y a toujours...
Comme tu me dis, il y a une horaire allemande, une horaire anglaise. Tu veux dire que dans l'Europe, selon le pays, c'est...
C'est différent.
Il y a le changement d'heure.
Plus le décalage horaire quand on prend l'avion et tout ça. Alors là, c'est vraiment perturbant.
Ah ok, c'est différent.
Et il y a beaucoup de pays qui changent d'heure comme ça encore
70 à peu près.
Ah oui, quand même.
Ouais. Ah ouais. Mais à leur façon.
Tous pour des raisons différentes, alors.
Oui, enfin, la raison le plus souvent invoquée, c'est l'économie d'énergie.
L'économie d'énergie.
Ah, ça peut rejoindre ce que tu disais, mais c'est pas vraiment probant. Hein. C'est des lois qu'on a instaurées, admettons, comme la vignette pour faire des économies sur les autoroutes pour que ça bénéficie aux personnes âgées.
C'était des économies pour l'État, mais...
Ouais, voilà.
Et vous saviez, vous autres, que ça venait de là, le décalage d'une heure?
Non, pas du tout.
C'est pour ça que...
Je pensais que c'était plus récent que ça.
D'accord. Par rapport au soleil, je dis souvent qu'on a deux heures de décalage parce qu'on traîne. C'est ce que je disais l'autre fois à la culture, 7 heures de guerre. Quoi.
Ouais, quand tu dis ça fait 50 minutes en moins dans la journée.
Non, c'est pas ça, c'est la différence qu'il y a quand tu traverses la France. Bon, au fil des années, ça c'est un petit peu...
Non, tu me disais par rapport à l'heure du soleil.
Je sais pas si tu as remarqué quand... il y a certains endroits en France, on a l'impression que le soleil se couche plus vite, suivant l'orientation. Mmh. Ou même en montagne, une fois que le soleil passe,
électricité, tu sais que c'est avant-gardiste. Quand on regarde les énergies futures, c'est prioritaire à l'énergie électrique.
Oui, mais finalement, ce qu'on économise le matin, on le repère le soir, ou inversement. Ça s'équilibre. 10 centimes d'euros. Mais
10 centimes d'euros par personne.
Ils appellent ça la PPE, programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ces projets comme quoi en 2050, il n'y aura plus de carbone, plus de pollution en carbone. Et
là, c'est vrai.
Et c'est vrai que le problème, c'est que Macron, il n'a pas donné le budget nécessaire pour atteindre nos ambitions. Et on dit qu'il faut que la France en prenne les moyens, quoi. Et parce qu'il faut tout renouveler. Tu regardes les centrales nucléaires. Elles sont obsolètes, il faut les détruire,
les fermer. C'est qu'on ne peut pas les détruire. Ça, il faut des millions d'années pour que tous les déchets soient traités, enfouis, mais c'est pareil. On va bien les retrouver quelque part un jour ou l'autre. Ouais.
Il faut équilibrer.
Par l'incinération.
Non, mais là, il y a le père, là, ils vont le mettre en route d'ici 3-4 ans.
Le quoi ?
Le père, c'est un nouveau réacteur nucléaire qui va consommer deux fois moins.
Justement, c'est la question, est-ce qu'on réinvestit dans des centrales nucléaires ou est-ce qu'on s'investit dans des énergies écologiques ? À savoir que ça coûterait le même...
Là déjà, il y a un budget qui dépasse de 10 milliards d'euros pour le retard qu'ils ont pris. Et donc,
Je pense que Fukushima a été
5 ans.
Oui.
A été une belle leçon pour nous.
J'ai pas entendu, pardon.
Fukushima a été une belle leçon pour nous.
Ah ouais,
c'est le problème aussi.
On est chauffé par incinération. Pas l'oublier.
Mais après, moi, ce que j'ai entendu, c'est que surtout, il faut que la bascule se fasse. Parce qu'on peut pas arrêter le nucléaire comme ça du jour au lendemain et dire « Allez, c'est bon, on arrête !» Et en fait, on n'a plus d'énergie après. Donc, il faut que le temps que la bascule se fasse. Et je pense que c'est une question d'années.
Elles sont obsolètes, nos centrales.
Sont obsolètes, mais même si elles sont obsolètes, elles produisent de l'énergie malgré tout.
Et les remplacer. Danger,
ah, je ne peux pas te répondre avec des chiffres précis.
Certains pays, des règles de sécurité ne divulguent rien. C'est pour ça qu'on a eu Fukushima.
Voilà. Maintenant, moi aussi, je crois qu'il y a dû avoir pas mal d'accidents à travers le monde et que ça nous est caché, quoi.
Bien sûr.
Moi, je me suis dit qu'en Alsace, il y en avait énormément des centrales nucléaires.
Et alors, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, donc, à ces gens-là, en Russie, comment ça s'appelait
Tchernobyl.
Ceux qui étaient à Tchernobyl, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont décédés,
Il y a beaucoup de gens qui ont été malades, qui ont été atteints.
Il n'y a jamais eu de reportage sur...
Non.
Sur leur devenir.
La France,
encore des choses qu'on nous cache.
Le sud a été touché. D'où les cancers de la thyroïde.
Ah ouais, hein. Tu vois.
Et contre, Fukushima, il y a des paysans, des gens qui retournent parce qu'ils ont tout dans leur maison, le peu qu'ils avaient, alors que c'est pollué et irradié, ils retournent.
Et il y a la mer, qui avait l'océan, qui avait été touché. Par la pollution, on ne pouvait pas manger de poisson, de fruits de mer, tout ça, c'était fini. Alors que justement, au Japon, le poisson, c'est peut-être ce qu'ils mangent le plus.
Est-ce qu'on va devoir revenir à la bougie?
Elle est pas mal, celle-là. Ouais.
Pour on y revient de temps en temps. Quand il y a une tempête.
Et pour revenir au changement d'heure, ça vous perturbe quand il faut changer l'heure?
Oui,
il y a des personnes qui le vivent.
Oui, surtout quand il faut se lever une heure plus tôt.
Ça change franchement.
Moi, ça change. Pour moi, c'est
emmerdant. Il y a toujours une fatigue quand même.
Moment emmerdant, je change.
Mais en général, ils font ça un week-end. Et en général, le dimanche matin, on n'a pas forcément à se lever plus tôt.
Oui,
au pire, on dort une heure plus tard et puis c'est fini, on n'en parle plus.
Oui, mais il faut une semaine ou 15 jours pour...
C'est vrai que moi, je fais rien d'autre que dormir, fumer, manger. Mais du temps où j'allais au collège, qui changeait l'heure, j'étais le matin pour se réveiller, c'était impossible. Mm-hmm. Déjà, à l'époque, on commençait les cours à 8h du matin. Donc, quand on changeait d'horaire...
Et il y a des pays qui sont tellement grands, du genre les États-Unis. Chaque état du pays change d'heure à une période différente.
Ils font un peu ce qu'ils veulent.
C'est-à-dire que du coup, c'est un casse-tête quand on y va, parce que quand on est dans le... Je vais dire n'importe quoi, parce que j'ai plus les états précis en tête, mais quand on est dans le Nouveau-Mexique, il est par exemple 14h. On va passer dans l'état d'à côté, il va être 15h, sauf entre le mois de janvier et de avril, où en fait, il sera 16h. Entre avril et août, il va être 14h, et puis à la fin de l'année, il sera plutôt 13h. Et chaque état a son changement, sauf dans les réserves indiennes, où dans les réserves indiennes, on ne change pas l'heure.
Voilà.
Ça veut dire que la réserve indienne est dans l'état, mais ne change pas d'heure.
Ok.
Donc pour les réservations c'est bien rigolo, quoi. On leur a pas dit aux Indiens. Pardon ?
Ils ont une horloge solaire, ces Indiens ?
Je sais pas, j'ai pas parlé d'horloge solaire avec les Indiens. Je leur ai dit bonjour et puis
les Indiens ont la faculté de connaître.
Si un Indien nous écoute sur Radio Z qui nous appelle pour nous demander des renseignements.
D'où l'utilité.
Vous laissez des commentaires.
Des montres à plusieurs horloges.
Oui, effectivement.
Ouais. Maintenant, on a le portable aussi, c'est bien.
Ouais. J'ai pas trouvé l'horaire indien sur mon téléphone. Je sais pas.
C'est avec des signaux de fumée.
Téléphone se met à l'heure seul. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, tous les téléphones se mettent à l'heure tout seul.
Ouais,
maintenant, on se lève et il est déjà à l'heure.
C'est les
déjà
ordinateurs aussi.
C'est vrai.
Mais s'ils font tout seuls, les ordinateurs, on fera quoi, nous ?
Pardon ?
Et justement, ils vont prendre nos métiers.
Vous avez vu qu'à chaque émission,
oui.
C'est fou, hein, à chaque émission, il y a toujours un moment où on arrive sur ce sujet-là. C'est marrant.
Ouais,
c'est à chaque fois, on arrive sur le sujet, le débat, les robots, la technologie. C'est vrai, en plus. La dernière fois, c'était sur les voitures.
Ouais.
Il y a une fois, c'était sur les métiers, les nouveaux métiers, les futurs métiers, les métiers qui vont disparaître, etc. Ouais.
C'est ça.
Heureusement qu'il y aura les Indiens qui seront toujours là.
Qui seront là pour tenir l'heure. Ouais.
Et heureusement qu'il y a les humanités aussi.
Les humanités ?
Oui.
Expliquez-vous.
Je veux dire, les sciences humaines.
Ah, les sciences humaines. L'histoire, tout ça ?
Ouais.
Pour faire face aux robots. Vous pensez qu'on va finir tous envahis par les robots ?
Oui.
Il y a un film ce soir sur les robots avec Will Smith.
Ah, c'est e-robot ?
E-robot ? Ouais, tu l'as vu ?
Oui, je l'ai vu, ouais.
Il y a un film super avec un petit
robot. Il est un navet.
C'est pas un navet, mais c'est...
Non, c'est
j'espère rigolo. J'espère que c'est pas l'avenir, quoi.
Ah ouais.
Non,
ça fait peur un peu. Mais...
Comment il s'appelait ce film ?
Ça finit plutôt, ouais.
Sinon, il y a l'autre petit film, Wall-E, le petit robot.
Oui, mais ça, c'est mignon, ça.
Oui, c'est mignon, hein. Mais c'est à savoir que ça tire des émotions comme si c'était une personne. Ce film est très, très bien fait. Hein.
Oui, on habitue nos enfants déjà à la robotisation.
Moi, ça me fait un peu peur parce que j'ai la foi comme quoi l'objet a une âme.
Oula. Est-ce que tu penses que le micro devant toi, il a une âme ?
Oui, il a une âme de micro.
Ah ouais.
Et donc,
c'est chelou, hein.
Admettons que cette âme prenne vie, peut-être que.
Il prépare. Et du coup, ce serait le micro qui préparait les chroniques.
Voilà. Puis, il y a un poète qui avait écrit objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et l'envie d'aimer ?
Ah, ça, oui, c'est
ça
beau.
S'appelle l'animisme. Ça s'appelle l'animisme, donner une âme aux objets.
Voilà. Voilà.
Leur donner,
c'était de qui cette
âme ? Leur donner vie aussi, Joe. Quelque part.
Je ne sais pas, je vais retrouver.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est pas Prévert ou un truc comme ça, un truc assez contemporain. Je vais retrouver.
Je n'ai pas les bases pour eux.
Isaac Asimov, c'est celui qui a beaucoup influencé la science-fiction robotique.
Ouais.
Dans les années
30. Je connais pas.
Déjà. Parler de l'homme-machine, l'androïde, et des lois robotiques.
Dans les années 30 ?
Ouais, déjà.
Au Japon, on y vient, à la robotisation, tout se fait par robot.
On va y arriver bientôt partout.
Les personnes se fait par les robots, le ménage se fait par les robots. Mmh.
Ça devient de moins en moins une utopie.
Il n'y a, que des robots qui les montent. Il y a très peu de...
Et alors, est-ce qu'on s'attacherait autant à un robot qu'à un chien ou qu'à un chat?
Ah non, hein.
Sûrement. Moi, je crois que oui.
Si on se fie, si on se fie à ta théorie que les objets ont une âme, alors le robot a donc une âme, et donc, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous y attacher?
Regarde les petits enfants qui jouent à la poupée ou leur doudou, quand ils le perdent, ils sont perdus.
Bah oui, pourtant.
C'est vraiment, ça représente quelque chose. Hein.
C'est vrai, t'as raison.
Enfin, moi, si j'ai un robot, que le robot, il me fait le ménage, qu'il me fait à manger et que même s'il n'a pas d'âme, je pense que si je le perds, je suis triste. Je m'y attache au bout d'un moment. S'il me fait ménager à manger, âme ou pas âme, je suis attaché.
C'est très cartésien.
Je vous ramène à chaque fois dans
le... À manger et le ménage.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Robot veut dire esclave, hein, d'ailleurs.
C'est vrai?
Et oui.
Ça veut dire quoi, esclave?
Oui.
Robot égale esclave.
Ah bon.
Moi, je sais pas, quand j'allumais l'ordinateur à la maison...
Tu veux parler?
Non, je ne parlais pas, j'ai utilisé et puis après j'ai éteigné. Donc pour moi, il n'y a pas d'âme, c'est un objet, voilà, comme le micro, comme le
là, comment ça s'appelle?
Le portable.
Une carte son.
Oui, une carte son, voilà. Donc c'est un objet, ni plus ni moins, vous en ferez quand on a fini, vous l'arrêtez.
Mais bon, ça, ce téléphone, il a une âme?
Oui, de téléphone.
Il a une âme de téléphone. Je sais que maintenant,
ça veut dire quoi?
Tu sais que maintenant, on peut parler au téléphone. Il te répond en plus, tu sais.
Ouais,
bah, il a une âme de quoi?
Il a une âme de portable.
Oui, mais ça veut dire quoi, une âme de portable pour toi?
Un être humain, il a une âme d'être humain.
C'est bref comme ça.
C'est quoi l'âme?
C'est quoi l'âme?
Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'âme?
C'est la matrice de l'intelligence. La matrice de l'intelligence.
Je ne suis pas capable de participer à ce débat là. Moi, je suis pas. C'est trop. S'il y avait Benoît, il nous aurait largement aiguillé sur le chemin de l'âme et de la sagesse.
Oui, il est au fait.
Ah,
on voit plus.
On est en train de tourner une émission. Là, il est en train de négocier avec France Inter et.
Je le vois comme un ascenseur.
L'âme?
Ouais.
Allez au bout de votre explication.
Eh bien, si on veut faire quelque chose au deuxième, on appuie au deuxième.
Ouais.
Et l'âme descend au deuxième et fait la chose au deuxième.
Après, alors le mieux, c'est d'aller sur le toit.
Exactement.
Donc c'est pas pour sauter?
Ah si, justement.
Oh là, c'est pour regarder les nuages. Bonne ambiance.
C'est pour regarder les nuages. Ça, c'est bon.
Moi, je trouve que c'est plus simple dans ces cas-là de s'attacher à la philosophie bouddhiste. Qui prête vie à tout.
Tout se réincarne.
Ouais, mais c'est quand même nous qui donnons l'impulsion, quoi.
Alors, si vous deviez vous réincarner, en quoi vous vous réincarneriez?
En chat.
En chat?
Je sais pas, je verrai bien. Mais déjà.
Un chat, c'est humain. Ah, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette.
Donc,
avoir une âme, c'est humain.
Déjà, je.
Ah. Donc un chat n'est pas humain. Bon, attends, on va y revenir.
On l'humanise.
Donc un chat.
Je vais me faire incinérer et mes cendres seront dans un comme un pot.
Oui.
Et il y a un arbre qui va. Je vais donner naissance.
Ah. Alors comme moi, et c'est dingue.
Ça c'est bon.
L'un des premiers livres que j'ai lu, c'est Bernard Clavel. Je me souviens plus le nom du. C'est le premier livre de la colonne du ciel, ou le deuxième, je ne sais plus. Et donc, c'est l'histoire d'un monsieur qui meurt et qui demande à être enterré dans les racines de l'arbre. Et il disait, comme ça, l'arbre se puisera dans, grâce à nourriture en moi, et je vivrai à travers l'arbre.
Et là, c'est carrément après des urnes qui sont vendues comme ça, et puis la graine
donc
de
l'arbre. Donc vous réincarneriez
en arbre.
En arbre.
Voilà.
Quelque
alors
part.
Moi, en dragon.
Ça,
en dragon,
je protégerai et je donnerai de l'ombre.
Véronique ?
Je sais pas, j'y avais pas pensé.
Tu vois,
c'est... Vous avez 30 secondes, le temps qu'on fasse le tour de la table, et il va falloir y penser vite.
Moi, avec le nombre de conservateurs que j'ai mangé durant toute ma vie, je sais même pas si je vais me détériorer.
Ah. Il est fort. D'accord. C'est clair. Toi, Zubida ?
Tu parles un livre ? Un livre ? Un livre ?
Quel genre de livre ?
Un livre de quoi ?
De recettes.
C'est
bon, j'allais dire. Comme ça, tu mourras pas de
faim. Bien, moi, je ne me réincarnerai pas, je pense. Hein. J'irai avec Dieu ou à l'enfer. Et voilà quoi.
D'accord, bon, pas de réincarnation pour toi.
Mon chat, parce que ça a cette vie déjà.
Oui.
Alors, vous savez que le serpent, tu me parles de religion, le serpent qui corrompt Ève à manger la pomme, tu sais qui c'est ?
Moi j'ai une histoire.
C'était la réincarnation de Lilith.
De quoi ?
De Lilith.
La première femme d'Adam.
Oui, la première femme d'Adam.
Ah, j'ai une blague à ce sujet.
Les blagues, alors. Déjà, je voudrais. Avant ça, je voulais savoir si Véronique avait eu le temps de réfléchir.
Non, toujours pas.
Alors, c'est pas grave. Moi ? Moi, je me réincarnerai en chronique. Je sais pas.
Il va falloir bosser.
Eh ben, quand je l'aurai préparé, je te le ferai savoir.
Attention, c'est pas une promesse en l'air.
Donc, oui. Donc, alors, on part vraiment sur une blague sur la religion, parce que c'est toujours un peu... Oui. Je me laisse la liberté de couper cette blague au montage. Allez, on t'écoute, Sylvie.
C'est Ève qui embarque Adam dans une barque, et puis Dieu, il est furieux, il fait « Qu'est-ce que tu as fait là ? Tu le paieras de ton sang. » Et il y a Ève qui répond « Puis-je payer par mensualité ?»
J'ai pas entendu.
C'est un peu de... «
Puis-je payer par mensualité ?» Non, mais tu regardes, il existe, d'après vous, est-ce qu'il existe des âmes négatives ?
Bien sûr.
Est-ce que tu peux m'éclairer sur
après,
le concept
si, après,
de...
là, on va rentrer dans le paranormal.
Ouais.
Tout ça à cause du changement d'heure. Hein.
Tu vois, ça trouble vraiment.
C'est quand qu'on
hein,
change d'heure, là, d'ailleurs ? C'est bientôt, là, non ?
La semaine prochaine,
la fin du mois.
Oui. La fin du mois, ouais.
24 mars. C'est 24 mars ?
C'est sur le dernier week-end du mois de mars, toujours.
D'accord.
Pour lui répondre, il y a le jour et la nuit.
Quand même négative ? Non, je crois pas.
Si.
Alors, c'est quoi le négatif ?
C'est quoi le négatif ?
La nuit, c'est l'absence de lumière, on voit rien et on peut se faire mal.
Et le jour,
on voit tout et...
On peut se faire mal aussi.
Alors, ouais, moi, je ne vois pas du tout ça comme ça.
Il nous aide à être alerte et on travaille.
Pour moi,
pour bien dormir.
Il y a des âmes négatives, comme les limaces, par exemple.
Ah, mais toi, tu as toujours le truc précis. Hein. Les limaces.
Les limaces ont une âme négative.
Pourquoi ?
C'est quoi une âme négative ? Je ne sais pas ce que c'est, moi, une âme négative. Agnès, c'est quoi une âme négative ?
Elles servent à quelque chose, les limaces, elles ont une fonction.
Ah bon, elles servent à quoi ?
Ben, elles font des trous dans la terre.
Ah non, elles ne font pas de trous dans la terre.
Là, pour aérer
le changement d'heure, c'est vraiment... On est parti sur les limaces, quoi. C'est quoi une âme négative ?
C'est une âme de limace.
Alors... Je me permets d'apporter mon petit... Donc, j'ai la définition de l'âme. D'accord ?
Ah, vas-y, on voit.
Donc, âme, du latin anima, qui veut dire souffle ou respiration. Donc, l'âme est le principe vital et spirituel, immanent ou transcendant, qui animerait le corps d'un être vivant. humain, animal ou végétal.
Voilà.
Voilà. Et donc le micro pour toi, il est...
Ah, il est positif, il est à zéro, quoi. Il est neutre.
Mais le micro, il n'est pas humain, animal ou végétal.
L'âme, on l'a pas planté dans la terre, objet, le micro. L'âme d'un objet, c'est une âme neutre, hein, qu'on peut,
ah oui, donc
qu'on peut coter au niveau négatif. Zéro.
D'accord. Donc si on le prend d'un point de vue philosophique, on pourrait dire que le micro...
On lui donne une âme.
On lui donne une âme à travers Radio Z et à travers nos chroniques, non préparées ou non préparées.
Ah, mais je ne vais pas
jusqu'à
que
j'aime. Surtout quand c'est préparé. Oui, parce que...
Vas-y, psychote.
Quand ce n'est pas préparé, on voit où ça va. Hein.
Le micro, pour moi, c'est un outil et donc l'extension de nous-mêmes. C'est pas
oui,
mal.
C'est, oui.
Et du corps. Hein.
Et du corps.
Et du corps.
Mmh. Et c'est nous qui l'animons. Voilà, et oui. D'ailleurs, ça capte notre souffle. Hein.
Oui. Effectivement.
Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est bien.
Et ça l'enregistre et ça l'embalance sur Internet.
Avant de le balancer sur Internet, je regarde, j'écoute quand même. Voir si c'est pas...
Bon, on va écrire donc au littéraire, comment on appelle ça, cette. Les plus grands auteurs, comment on appelle ça?
Les plus grands auteurs. Vas-y.
La chambre des.
Aux académiciens.
Elle va demander à l'académie de rajouter sur la définition de l'âme, objet.
Après, si
je pense qu'ils seront d'accord.
Ça dépend quels objets.
Pas de souci.
Si on prend par exemple
c'est une métaphore,
un violon,
alors, c'est pas une définition.
Le fameux Stradivarius, là, le violon
pas
super.
N'importe lequel, hein.
Bah, là, pour tirer des sons et tout, c'est vrai que c'est vraiment...
Ah, voilà.
Oui, mais c'est, ça reste toujours...
Mais ça reste l'impact, c'est quand même l'humain qui
oui,
fait
oui,
vibrer...
Oui, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que ça reste malgré tout philosophique,
oui,
si
philosophique,
je peux dire.
Oui, philosophique, oui, je suis d'accord avec toi.
Il n'y a pas que des bonnes âmes, hein.
Non,
on
ne
parlait que des bonnes âmes, là.
Ah,
sauf,
allez, c'est parti.
Sauf les limaces.
Qui sert à rien, je rappelle, les limaces... Si vous avez des limaces chez vous, vous pouvez vous en débarrasser.
Moi, j'ai des escargots, mais moi, j'ai pas les limaces.
Et tu sais pourquoi on dit qu'une limace est un SDF?
Oh,
parce que l'escargot, il a sa maison sur
le dos. Le dos, alors la limace, elle n'en a pas.
Oh, là. Là, on va entrer dans un débat politiquement pas correct. Hein. Donc, alors... Je veux bien écrire, moi, à l'académie, mais comment je justifie qu'ils rajoutent la définition de... à la définition des objets.
Après enquête.
Psychote, tu vas trouver.
Allez écouter notre blog, mettez un commentaire et rajoutez objet à la définition de...
Réagissez à Audioblog.
Audioblog Arte Radio Z.
Arte Radio Z, s'il vous plaît.
Et là, bam, ils vont rajouter à la définition directe.
Ah ouais. Quelle est pour vous la définition de l'âme? Pour vous, les objets ont-ils une âme?
Vaste sujet, hein, franchement. Et tout ça à cause du changement d'heure. Franchement, Marie-Thérèse, merci.
Non, mais après, on peut détourner les objets de leur fonction. Donc, dans ce sens-là, on peut dire qu'ils ont une âme.
Oui, c'est vrai.
La récup.
Pas forcément de la récup.
Ce que je sais, en parlant de l'âme, c'est qu'il y a... des chirurgiens, des médecins, des professeurs qui ont essayé de construire un corps humain.
Construire quoi?
Ils ont essayé de construire un corps humain.
Ouais, comme...
Comme on construit, je sais pas moi, un château de sable. Ah ben, ils n'ont jamais pu l'animer.
Ah ouais. C'est
pas si manqué l'âme.
Comment il s'appelle?
Frankenstein,
c'est ça. Frankenstein.
D'après...
Qui coule les jambes avec le corps. Avec... Ah, il est horrible ce film.
Non,
Frankenstein.
Et à la fin, il se jette dans le feu et il meurt. Frankenstein. Qui essaye de.
C'est un
roman,
hein.
De donner vie à sa créature.
Hideuse.
Conçue de jambes et de bras différents.
Et alors, est-ce que lui, il avait une âme?
Oui, il avait une âme.
Bah, s'il était reconstitué avec des morceaux de personnes différentes, c'est qu'il avait plusieurs âmes.
Et il avait une âme maléfique.
Il était multi-âme.
Mais ça, c'est la fiction.
Non, mais ça, il savait que
ça reste de la fiction.
Non, quoi, c'est de la fiction.
C'est un roman, après. Hein. Ça, c'est... Ouais.
Moi, j'aimerais reconstruire le fil par lequel on est arrivé jusque-là, en fait. Donc, changement d'heure.
Écologie, énergie.
Écologie, nucléaire, robot, âme, limace, Frankenstein, réincarnation. Ce sera le titre de la limace. Ce sera l'émission de la limace. Véronique, toujours pas d'idée de réincarnation ?
Non.
La limace, au truc, c'est pas une bonne idée, la réincarnation, limace ?
Ah oui, pourquoi pas ?
Non.
Là, je suis vraiment limace aujourd'hui. Hein.
Ah.
Limaçonne.
Attention, parce que la limace, apparemment, ça sert à rien,
c'est
selon...
C'est ça, c'est ça.
Restez pas trop près d'Agnès, parce que...
Elle va se faire la peau.
Bon, bah, sur ce...
Pensez qu'on a fait le tour.
Oui.
Pensez qu'on a fait le tour du sujet, là.
Ouais.
On en reste là ?
Bah, non, mais moi, je suis d'accord. En disant
on va passer une petite...
Les objets sont animistes. Les objets, on peut en faire quelque chose. Les détourner de leur fonction première.
C'est les tribus.
Leur donner une seconde vie.
Oui, moi je rigole depuis tout à l'heure, mais moi, je, par exemple, je vais faisant de la musique. Je peux prendre un instrument de musique comme un violon, mais moi, le violon, ça me parle peut-être un peu moins, mais par exemple, comme une... Je sais pas,
une basse.
Prenons une guitare qui a été construite dans les années 60, je ne sais, qui est passée entre je ne sais combien de mains, qui a joué, je sais pas, moi, voilà. Et pour moi, c'est je pense que je suis prêt à dire que cette guitare, elle a une âme.
Oui, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit. Je suis d'accord.
Quand on dans différentes tribus, il y a les papous, les je sais plus qui, là, qui donnent une âme aux objets.
Voilà. Moi, quand on me dit range ta chambre, je leur explique que mes meubles aiment mon foutoir parce que mon foutoir leur rappelle que c'est moi leur maîtresse.
Ah, bien dit, j'ai les mêmes arguments la prochaine fois.
C'est seulement de l'empathie.
Premier sur les excuses.
C'est de l'empathie pour des héritages.
Oh putain, là j'ai perdu le.
Donner une âme à un objet qui serait passé de main en main, c'est juste de l'empathie par rapport.
Effectivement.
Non, pas toujours de
l'empathie. En restant terre à terre, oui, ça reste ça.
Moi, je pense pas que ce soit que de l'empathie. Mais... quand on fait un loft, par exemple, quand on construit un loft à partir de vieilles
bâtisses qu'on retape, etc.
Qu'on retape et tout ça, c'est loin d'être de l'empathie. Hein.
Oui.
C'est du business. Hein.
C'est du business. Mais imaginons...
Se laisser dominer par les objets.
Il y a un endroit dans le vieux Nice que j'ai beaucoup fréquenté, qui est une salle de concert, qui n'est pas le volume. Et récemment, j'ai appris que... c'est une salle de concert qui est une cave dans le vieux Nice. Et en fait, j'ai récemment appris que cette cave, pendant la Seconde Guerre mondiale, était une cachette de résistants, etc.
Un bunker.
Je ne sais pas si c'était un bunker, mais en tout cas, c'était une cage de résistants et qui a été découvert peut-être il y a 20 ans, enfin, je ne sais pas, quand l'ancien propriétaire l'avait racheté. Et c'est marrant, parce que quand je suis rentré dans cet endroit, sans savoir cette histoire, je m'étais toujours dit que cet endroit avait une âme. Je ne sais pas laquelle. Pour moi, c'était une âme de
oui, c'est vrai, qu'il y a des endroits.
De musique ou de... Ouais. Voilà, il y a des endroits comme ça qui transpirent la... L'histoire, etc. Mais ça reste un peu comme Alexandre a dit, une espèce
c'est une ambiance,
d'empathie, de succession, d'héritage.
D'héritage.
Oui, le ressenti. C'est, admettons, quand on rentre dans une...
Oui, mais tout à fait, c'est hyper important.
La mémoire, déjà la nôtre, puis celle de nos anciens.
Exactement.
Alors,
ça reste une âme.
On dit que quand on rencontre quelqu'un d'intelligent, il a quelque chose de divin. C'est justement ce...
Je peux vous aider si vous voulez sur le sujet. Ah, pardon. Non, vas-y.
C'est donc l'intelligence, l'intellect serait éternel, au même sens que divin.
Tu attends qu'on te réponde quelque chose, là, parce que j'ai pas...
Donc c'est peut-être la raison que c'était des gens intelligents qui, dont l'intellect est resté éternellement dans ce lieu.
Peut-être. Peut-être.
Ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, quand on rentre dans une église, naturellement, on va tous parler comme ça. Souvent. Quelle que soit notre religion, il y a des marques de respect qui nous viennent naturellement comme ça. Donc là, c'est peut-être aussi... Il y a quelque chose qui se passe.
C'est... Ouais.
Mais je crois aussi qu'on fait tous...
Mais est-ce que c'est notre bonne éducation, est-ce que c'est...
Oui, je pense qu'il y a de ça aussi, hein, l'influence.
Après, selon moi, le panneau à l'entrée,
ouais.
Silence. Ça joue pas mal aussi, quand même.
Il y a un panneau à l'entrée de l'église.
Je sais pas, c'est déjà...
Il n'y a pas de respecter ces lieux, voilà.
Ah, il n'y a pas marqué silence.
Mais c'est pour dire que c'est l'ambiance des lieux,
oui,
en fait.
Oui, il y a quelque chose, quand on rentre, on ressent quelque chose.
Oui, c'est calme, on n'entend rien de l'extérieur, il fait même frais. Alors, et quand on sort, on est happé à nouveau par la ville, le quotidien.
Je partage ce que...
L'atmosphère, alors.
Oui, voilà, c'est ça.
On peut en venir au fantôme.
Les âmes sont liées, quelque part.
Avec le souffle et l'air, c'est très aérien, notre discussion.
On peut en venir au fantôme. Peut-être qu'il y a des fantômes qui hantent.
On va arriver par vers le paranormal, hein. Tout à fait.
L'image de fantôme nous a tout fait.
Est-ce que les limaces sont des fantômes
Non, elles n'ont pas assez d'âme pour ça.
Parce que les chauves-souris sont des fantômes.
Elles ont une âme négative. Ah, les chauves-souris, oui. Ouais.
Voilà.
Et ces fantômes, la seule façon qu'on a pour les diriger, c'est justement, je rejoins ce que disait Marité, c'est le prêtre qui prie pour ouvrir le domaine des cieux aux fantômes.
Elle dit ça, Marité ?
Non, elle parlait d'église.
Ah, pardon.
De l'ambiance de l'église.
De l'ambiance de l'église.
Véronique, une petite réincarnation en fantôme, c'est pas mal aussi, non ?
Oui, pourquoi pas.
Un gentil.
De toute façon, tôt ou tard, hein, on y passera.
On y passera tous, a priori. À moins qu'on se fasse tous transformer en robots.
Ou en limaces.
En gardant notre âme. Et là,
ouais.
On réécoutera cette émission en 2054. Et on dira qu'est-ce qu'on était bêtes à l'époque, franchement.
Et si on tombe en panne, on est mort.
Il y aura des réparateurs. Il y aura des robots qui répareront. J'ai déjà dit ce truc.
Ouais. Ouais.
Que dites-vous de nous quitter sur...
les fantômes.
Sur cette discussion. Sur les fantômes.
Les fantômes.
S'il y a des fantômes qui nous écoutent, mettez des commentaires sur notre audioblog.
On va les laisser dans les limbes.
Pour moi, les fantômes, c'est Halloween. Et puis voilà.
Qu'est-ce qui veut conclure cette émission ?
Le choix de vie.
Le choix de vie. On laisse la conclusion de l'émission au choix de vie.
Ouais. Chacun.
Chacun.
Tu penses que chacun choisit sa vie.
Chacun a tous les jours le choix de faire la une ou l'autre.
Vous étiez bon en philosophie, vous, non
Je suis un littéraire.
Ah, voilà.
Ça, c'est sûr.
Vous allez bien vous entendre avec Benoît, je pense.
Ça se sent.
Bon, eh bien, je vais me lancer alors.
Vas-y.
Merci beaucoup à tous.
Merci.
C'était très diversifié aujourd'hui comme échange. Et à bientôt sur
Radio 16.
Merci, ciao.
Ciao.
Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. J'affronte la vie comme un aveugle avec un Walkman.
Walkman.
Comme une anomalie dans leur programme.
Programme.
Vos rêves sont mes cauchemars.
Cauchemar.
J'aurai 20 ans toute ma vie, rien n'est jamais trop tard.
Trop tard.
Quitte à perdre le nord, pas sûr que la nuit porte conseil quand on traîne dehors.
Dehors.
Laisse-moi faire ce que je fais de mieux, je continuerai mes conneries jusqu'à ce qu'ils me prennent au sérieux.
Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. demande pas ce que nous réserve l'avenir, je sais pas. Ça va faire une éternité que je suis pas sorti de chez moi. Le moral dans un triste état, à vivre au jour le jour comme si le suivant n'existait pas. Marre d'observer le monde de loin, je dois fuir ma ville et ses recoins, savoir à quoi ressemble demain. Personne me souhaite bonne chance, mais je passerai pas ma vie à me demander quand elle commence.
Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche.
Comme la gueule de bois du lundi matin, envie de faire demi-tour à la moitié du chemin. Quand toute la ville te répète que t'iras nulle part. Comme un somnambule au bord du ravin, envie d'appeler à l'aide qu'on vienne te tenir la main. Quand tout ce que tu sais faire c'est remettre à plus tard.
À l'heure où je me couche quand les oiseaux chantent, la voisine part au travail pendant que je m'endors avec l'amertume et l'angoisse au ventre. La vie file, moi j'en peux plus de l'attendre. Et si à force rester bloqué à tout jamais entre les murs de ma chambre. Y'a rien à comprendre quand on grandit dans un scaphandre. On se lève, on glande, on trompe l'ennui dans une galerie marchande. Je veux plus être absent de ma propre vie, à regarder nos petites histoires passer à côté de la grande.
Un jour on est venu au monde, depuis on attend que le monde vienne à nous. Tant mieux si la route est longue, on pourra faire un peu plus de détours. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent à l'heure où je me couche. Rien ne bouge.